Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
C'est un drôle d'endroit pour une expérience quasi sensorielle. Il suffit de repenser à la chaleur du soleil écrasant le bitume, à la lumière des néons en plein cœur de la nuit. Se remémorer l'odeur de pneus surchauffés, du kérosène qui colle aux mains, celle des pins maritimes sous lesquels les vacanciers cherchent un soupçon d'ombre. Retrouver le goût d'un café lyophilisé, du sandwich triangle qu'on a longtemps hésité à acheter et ces rouleaux de réglisse réclamés par les enfants parce qu'au moins, ces bonbons-là, ça dure longtemps. Il y a aussi cette table de pique-nique en bois, ces toilettes indispensables, nettoyées par Martine à 15h23, comme c'est indiqué sur la feuille de papier plastifiée près du sèche-main. Et si les aires d'autoroute étaient la reproduction de notre société dans un territoire créé ex nihilo par l'homme? Un lieu de rencontre, un endroit pour se nourrir et dormir, un espace pour les voyageurs et les travailleurs, une étape sur la route des vacances, un rendez-vous quotidien pour des salariés. L'aire de repos devient alors un lieu politique, géographique, historique et culturel. Embarquement pour l'été comme jamais, avec arrêt obligatoire sur une aire d'autoroute.
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Et pour évoquer ces aires d'autoroute, trois invités sont présents dans ce studio. Bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Vous êtes romancière, l'autrice d'un récit pour lequel j'ai eu un coup de cœur, Kérosène, publié aux éditions L'Iconoclaste, et dont le décor est une station de service en bord d'autoroute. On part pour les Ardennes avec ce décor qui devient en fait un personnage à part entière de votre récit où se croisent une quinzaine de femmes et d'hommes, et même un cheval. On va y revenir. À vos côtés, Isabelle Ingold. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice de documentaires et notamment d'un film politique et poétique, Des jours et des nuits sur l'air. Il était sorti en 2016, mais il est toujours d'actualité. C'est une immersion dans une aire de Picardie où là encore se croisent des dizaines de personnages. Il y est question de mondialisation, de rapports sociaux, de violences sociales, de rencontres, de voyages et de souvenirs aussi. Nous allons l'évoquer tous ensemble. Et puis il nous fallait un regard presque scientifique sur la question. Bonjour Mathieu Flonneau.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des mobilités et des routes et nous allons avoir besoin de votre éclairage sur cet espace. Une aire d'autoroute, comme je le disais en introduction, fait un peu office d'expérience sensorielle. Alors je voulais vous poser une première question. Adeline Dieudonné, vous allez ouvrir le bal. Si vous deviez décrire ce lieu en utilisant uniquement votre sens gustatif.
Je ne sais pas pourquoi j'ai le CCML qui me vient en tête. Mais
le quoi? Dites-moi.
Le CCML.
C'est belge.
Ça n'existe pas en France?
Non. Ah, alors racontez-nous, c'est quoi le CCML?
Mais allez, c'est fou ça. Le CCML, c'est une boisson au chocolat. C'est une espèce de lait chocolaté. Mais vous appelez ça comment en France?
Un lait chocolaté. Mais oui, c'est comme vous voulez. Il y a une marque, mais je pourrais pas la citer. Un cacolac. Un cacolac.
Ah, ben voilà, mais chez nous, c'est...
Donc, CCML.
Ouais.
Et c'est ça qui vous revient à l'esprit?
Ouais, à mon avis, ça doit être un vieux souvenir de départ en vacances quand j'étais petite, ouais.
Isabelle Ingold, si vous deviez nous raconter cette aire d'autoroute que vous avez filmée pendant de longs mois, mais uniquement par le son, ça ressemblerait à quoi?
Peut-être les informations de la SANEF sur cette aire d'autoroute et sur parce que c'est entre Paris et Bruxelles, et c'est une autoroute qui est extrêmement fréquentée, et donc la question des embouteillages est très importante. Et on l'écoute dans l'air en fait, elle est diffusée en permanence dans le grand mall.
Le grand mall, c'est-à-dire sur l'aire d'autoroute, en fait.
Oui, à l'intérieur du bâtiment.
Mall,
en fait.
Voilà, c'est un immense bâtiment où il y a une sorte de galerie marchande. Voilà, c'est ça. Adeline Dieudonné, page 12, vous décrivez un peu cette aire d'autoroute, cette station. Mmh. Ça vous ennuie de nous lire juste ce petit extrait?
Non, avec
grand. Oui, il est question du bruit de l'autoroute, justement.
D'accord. Le bruit de l'autoroute ressemblait à une forme de ressac régulier et plutôt doux. Et les gens qui y passaient murmuraient plus qu'ils ne parlaient, comme s'ils avaient peur de réveiller un voisinage imaginaire. Il y avait presque du recueillement dans leurs gestes et dans leurs pas. Peut-être que la route, la chaleur, invitait à un état méditatif qu'ils essayaient de préserver pendant le ravitaillement.
C'est ça, ça a le bruit du ressac de la mer parfois, le bruit de ces camions que vous filmez si bien dans votre documentaire, Isabelle Ingold.
C'est vrai qu'en écoutant ce que vous venez de lire... Je me souviens que la première fois que je suis arrivée sur l'air, j'avais le sentiment que c'était comme une île, en fait. Que c'était un endroit complètement isolé, au milieu de la campagne, au milieu des champs. Et que c'était un univers clos aussi, comme une île, peut-être.
Mathieu Flonneau, vous n'allez pas échapper à cet exercice de l'expérience sensorielle, mais si vous, vous deviez me décrire une aire d'autoroute uniquement avec votre vue, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand vous entendez cette expression d'aire d'autoroute?
En répondant à votre gentille invitation, c'est évidemment l'aire des volcans d'Auvergne, qui pour moi est sur la route du Sud, et ouvre avec des perspectives incroyables sur la chaîne des Puys, avec une architecture bien particulière, bien adossée à tout un système, un écosystème technique, évidemment l'autoroute, et puis le monde des routiers, mais qui ouvre en même temps sur une poésie incroyable, et en général le temps des vacances.
Oui, c'est ça, c'est que vous trouvez aussi dans ces lieux créés un peu ex nihilo, comme ça, une forme de poésie.
Ah, ça, c'est une évidence.
C'est une évidence, ouais.
Il me semble que le sujet de l'émission est sur cette poésie-là, mais ne pas oublier la dimension mobilitaire première, qui n'est pas du tout antithétique, mais qui est celle d'une utilité. Mais comme vous le savez, la poésie est aux marges de l'utilité.
C'est exact. Aline de Donné, est-ce que c'était une évidence pour vous d'ancrer ce récit auprès de cette station-service? C'est-à-dire, quand je dis ancrer dans cette station, celle-ci en particulier qui est située dans les Ardennes?
Celle-ci, elle n'existe pas, en fait.
Vous l'avez imaginée?
Je l'ai imaginée. Enfin, en tout cas, je l'ai située dans les Ardennes. Celle que j'ai dans la tête, c'est une station qui est plutôt en Wallonie, mais pas du tout dans les Ardennes, plutôt proche aux portes de Bruxelles. Non, c'était pas une évidence du tout. C'est un décor qui est apparu comme ça en écrivant une histoire. Et puis je me suis dit tiens, mais ce serait intéressant comme Kérosène, c'est un ensemble d'histoires avec des personnages qui se croisent. Je me suis dit à un moment, j'aimerais bien que ces personnages se rencontrent et convergent tous vers un lieu. Et comme la station-service était là dans une des histoires, je me suis dit c'est vraiment un bel endroit. C'est quelque chose qui m'invite au voyage, qui invite mon imaginaire, et donc j'ai eu envie d'y passer plus de temps.
Vous êtes d'accord pour dire que ça devient un personnage à part entière de votre récit, cette station?
Je suis pas sûre parce qu'elle ne joue pas, c'est-à-dire qu'il y a pas de, elle a pas de présence, je pense, comparé à par exemple un lieu qui pour moi est un personnage dans le livre qui est le lac, où là il y a vraiment on lui prête presque des intentions. Là la station elle est très inerte, mais je comprends qu'on puisse le voir comme
oui,
ça.
Mais c'est étonnant ce que vous dites, parce qu'effectivement elle est inerte cette station, mais sans elle il y a pas de récit. Vos personnages ne se retrouvent pas en fait.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce qui m'importe dans cette station, ce sont les personnages. Qu'est-ce qu'elle va créer chez eux, quelle atmosphère elle va emporter avec elle. Ouais.
On va parler de tous ces personnages qui se croisent sur une aire d'autoroute. Vous qui nous écoutez, que représentent les aires d'autoroute dans vos voyages et dans vos souvenirs d'enfance aussi? On attend vos histoires, vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous écrire un mail sur la page de l'émission L'été comme jamais, et vous pouvez aussi nous laisser un message vocal via l'application France Inter.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche, le cœur toujours percé par ta flèche. Bang, 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 bang. Mes larmes un peu sèches, ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, tu n'avais pas bien vu. T'avais perdu ta queue de vue, alerte enlèvement du cœur sous les vents, alerte enlèvement, tu m'oublies sûrement. D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. 100 fois percé à jour, j'ai vendu la mèche. De larmes, de sueur, de sang, ceci est mon corps.
L'été dernier par Benjamin Biolay, extrait de son dernier album Grand Prix, dans lequel il évoque la route, les voitures, les rencontres et les souvenirs.
France Inter, l'été comme jamais.
Nous parlions d'expérience sensorielle il y a un instant. Céline nous a laissé un message sur l'application France Inter.
Moi, ce que j'aime sur les aires d'autoroute, c'est qu'elles m'annoncent les vacances. Donc mon petit plaisir, c'est de m'arrêter sur la première aire d'autoroute où j'entends le des cigales. Et la stridulation des cigales m'annonce que les vacances arrivent très rapidement et je repars tout à fait sereinement.
Mathieu Flonneau, on parlait tout à l'heure de cette autoroute qui descend vers le sud de la France. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait des cigales près des volcans, mais est-ce que ça vous rappelle aussi, est-ce que ça vous donne le point de départ de vos vacances quand vous vous arrêtez sur la première aire d'autoroute?
C'est un signe, indiscutablement, et surtout, c'est des réseaux qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et donc, ils permettent cette liberté, parce que j'ai des souvenirs de cigales, mais à 3 heures du matin. Et donc là, évidemment, la vie est un peu inversée. On a ce sentiment de changer des codes. Et donc, immédiatement, l'aspect utilitaire du déplacement fait place à un voyage.
Un vrai voyage,
avec de la musique, avec tout ce que le cinéma, ce que certains documentaires peuvent mettre en évidence, c'est-à-dire une ambiance, une atmosphère, des rencontres, un voisinage, enfin voilà.
Eh bien, nous allons évoquer toutes ces thématiques dans les prochaines minutes. C'est un peu le côté poétique de ce lieu, qui sont bons effectivement les vacances, mais à ligne de données, c'est une autre facette de cet endroit que vous décrivez dans Kérosène. Le roman, on le disait tout à l'heure, pourrait être une succession de nouvelles. Or, c'est plus que cela, parce que ce décor de station-service, justement, devient un peu le point de convergence de tous vos personnages. J'en cite quelques-uns. On a une prof de pole dance, une grand-mère en fin de vie, un dépanneur dragueur, une nounou philippine qui est complètement exploitée par les gens pour qui elle travaille, une mannequin phobique. Il y en a une quinzaine comme ça. Et j'ai l'impression que tous ces personnages qui se retrouvent dans cet endroit-là sont marqués quand même par des rapports de domination. Est-ce que cette station-service, cette aire d'autoroute, ça symbolise aussi un rapport de domination dans votre esprit, ou pas du tout? Vous ne l'avez pas pensé comme ça?
Je l'ai pas pensé comme ça parce que par définition, je pense pas quand j'écris. Donc, je réfléchis pas à avoir un propos spécialement. J'écris des histoires qui m'amusent et qui me font plaisir. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde ce que j'écris, je me rends compte que les rapports de domination sont partout, tout le temps. Et c'est sûr que la station-service, elle incarne les énergies fossiles, et les énergies fossiles incarnent cette domination ou cette emprise de l'homme sur le monde vivant, sur la nature et la façon dont il le détruit pour l'instant. Oui.
Isabelle Ingold, dans votre documentaire, vous vous intéressez aux rapports de domination. Vous filmez par exemple les chauffeurs routiers étrangers qui sont loin de leur famille, qui tentent de répondre aux exigences de leur patron. Il y a question de mondialisation, de violence sociale aussi. Et puis vous observez les salariés qui travaillent au restaurant de cette aire. Et il y a une scène qui m'a particulièrement marquée. Nous sommes à la fin d'un repas, discussion entre trois d'entre eux.
Non mais t'as qu'à remarquer. Rien que sur l'équipe de nuit, on est 4 femmes.
Ouais.
Tous célibataires.
Non, c'est clair.
Et sur l'arche, il faudrait faire le calcul du nombre de femmes. Du nombre de femmes qu'il y a et du nombre de femmes célibataires ou en séparation qu'il y a. C'est. Je sais pas, il faudrait vraiment faire le calcul. Bon, des gars, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est des jeunes.
Non,
ils sont pas encore en. Ils ont pas encore.
Ouais, il y a beaucoup plus de femmes, mais c'est vrai, comme tu le dis, elles sont.
Mais soit séparées, divorcées, ou en séparation. Bon, et là, je dois dire que en 2014, ça a battu tous les records quand même. Hein.
Attends, il y a tout le monde qui
sait. En plus, c'est pas fini, hein. Apparemment, en 2015, c'est pas mieux. Hein.
Ah bon ?
Ah bon ?
Ah. T'as des bruits de couloir ?
Des bruits de couloir.
Isabelle Ingold, on a l'impression que dans ce lieu, l'intime et le collectif se mêlent inexorablement l'un à l'autre.
Oui, enfin surtout ce que je retiens de cette séquence, c'est d'abord effectivement que sur l'aire d'autoroute, à l'intérieur et dans la galerie marchande, c'est des femmes qui travaillent, 80%. Oui. Et sur les parkings, c'est des hommes. Dans toute la durée du tournage, sur un an, j'ai rencontré deux fois des femmes qui étaient chauffeurs. Donc c'est vraiment extrêmement rare. Et donc, c'est aussi des tout petits contrats, parce que le temps de travail est annualisé, c'est plus facile pour les entreprises de gérer ce type de contrat. Et donc, c'est souvent des femmes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler sur ce territoire et sur cette aire. Donc, c'est un peu un personnel captif de cet endroit.
Et c'était les rapports de domination aussi qui vous intéressaient quand vous êtes allé filmer cette aire d'autoroute ?
Alors, ce qui m'intéressait au départ, la première... Disons, le premier moment où je me suis dit que je voulais faire un film, c'est parce qu'un jour, j'ai dormi quelques heures sur cette aire. Et le matin, j'ai voulu voir le paysage et m'éloigner un petit peu de la zone commerciale. Et donc, je suis allée sur les parkings de poids lourds. C'était un week-end. Et j'étais frappée par le fait qu'en fait, toutes les plaques minéralogiques venaient des pays, entre guillemets, pauvres de l'Europe. La Pologne, Roumain...
Bulgarie,
ouais. Etc. Et donc, je me suis dit, mais au fond, pourquoi il n'y a pas de Français ? On est tout près, on est en France. Pourquoi il n'y a pas de Belges ? On est à côté. Pourquoi il n'y a pas de Luxembourgeois ? Pas d'Allemands, pas de Néerlandais, alors que c'est un lieu de passage de ces camions. Et donc, je me suis dit qu'au travers de ce tout petit lieu, ce serait peut-être aussi une manière de raconter ce qui se passait en Europe. Et effectivement, disons, de la concurrence déloyale, entre guillemets, et des déplacements qui permettent à des gens de travailler pour des salaires du quitte au double entre des gens qui font le même travail, en fait.
Oui, c'est comme ça que cette aire d'autoroute, elle devient un peu un lieu politique, comme je le disais en introduction. Mathieu Flonneau, on a besoin de votre éclairage. La première autoroute, elle date de 1926, si je me trompe pas, dans le Puy-de-Dôme. Combien de temps il faut attendre pour voir apparaître les aires d'autoroute telles qu'on les conçoit aujourd'hui ? C'est-à-dire avec une station-service, un restaurant,
comme objet
un lieu
politique,
pour se reposer.
Ça vient d'être dit, ce sont des objets politiques d'une politique d'aménagement du territoire. Alors, l'autoroute à laquelle vous faites allusion, c'est sans doute celle qui précisément montait au Puy-de-Dôme.
Oui.
Et Michelin était derrière pour son financement. Mais enfin, c'est pas l'autoroute linéaire telle qu'on la conçoit à partir des exemples italiens qui, au début de la période fasciste, on construit les autoroutes entre les Grands Lacs, entre Milan et Turin et les Grands Lacs. Le modèle autoroutier, il est apparu donc en Italie. Les États-Unis ont donné des codes également, qui héritaient des parkways américains, nord-américains. Et puis vous avez eu, bien évidemment, la grande période nazie, qui a fait des autoroutes aussi des objets très très politiques. Et puis il y a eu une période, et l'objet autoroutier est compatible avec la démocratie, avec la République routière, il y a eu une période où la France a commencé, après avoir réfléchi longuement, puisqu'elle avait soi-disant le plus beau réseau routier au monde, et donc les autoroutes étaient super fêtatoires en quelque sorte, on a quand même conçu des autoroutes, et la première en France est inaugurée en 1938, mais c'est très peu de kilomètres, c'est l'autoroute de l'Ouest, puis c'est surtout un contournement et un dégagement de Paris. Mais les premières grandes autoroutes en France, vous les avez citées, c'est l'autoroute du Sud, c'est la jonction sans feu rouge entre Lille
oui, c'est ça.
Et Marseille,
oui.
Qui est inaugurée définitivement par Georges Pompidou en octobre 1970. Et ce discours qui accompagne son inauguration est fondamental, parce que dans ce discours, il y a une vraie lecture humaniste du territoire faite par le président Pompidou, qui était, comme vous le savez, agrégé de lettres, et pas du tout réductible aux bétonneurs auxquels on l'associe très souvent. Mais précisément, c'était pas totalement incompatible d'avoir une autoroute qui pénètre, parce que le discours est prononcé à Savigny-les-Baunes, qui est l'un des meilleurs vins du monde, en Bourgogne.
Mais comme quoi, c'est un objet culturel aussi, les autoroutes.
Et sur l'air, et puis il y a une plaque qui l'évoque, vous avez ce dialogue permanent que les panneaux touristiques aujourd'hui marrons que nous connaissons tous illustrent, c'est-à-dire on met en territoire finalement ce linéaire. Et l'illusion serait de croire qu'on ne fait que passer. L'illusion serait de croire que ce ne sont que des infrastructures mobiles. Non. Et ce que les romans et les documentaires montrent, ouais, c'est qu'elles sont inscrites dans un territoire, dans une immobilité. Et c'est cela C'est cette jonction entre les deux qui rend la chose intéressante. Et donc, pour répondre précisément à votre question, la vraie civilisation autoroutière, telle qu'on la conçoit en France, elle apparaît après la loi de 1955 qui permet aux sociétés privées de financer et d'abonder dans des concessions sur un système qui va augmenter à partir des plans de la 5e République, de 300 km par an, un réseau qui aujourd'hui a 9500 km.
Alors, les artistes ont très peu chanté les airs d'autoroute, je vous rassure. En revanche, la route a été une inépuisable source d'inspiration pour eux. Charles Trenet a chanté la RN7, Chuck Berry a choisi la route 66. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks. Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Take that California trip. Get your kicks. Get your kicks on Route 66, and I'll meet you on Route 62. Get your kicks on Route 66. Vous êtes sur l'autoroute de l'été comme jamais sur France Inter, et en 1988, le réalisateur François Duperron mettait en scène Catherine Deneuve et Gérard Depardieu sur une aire de l'autoroute du Sud. Le film s'appelle « Drôle d'endroit pour une rencontre » parce que oui, les airs sont des lieux de rencontre, la preuve avec ce mix préparé par notre réalisatrice Juliette Medevielle. Quand les héros et héroïnes de Duperron croisent celles et ceux du film tourné, du programme court « La minute vieille » et des vacanciers interviewés sur la route.
Merci, bonne route.
Merci à vous, bonsoir.
Je finis dans une heure.
Pardon ?
Je finis dans une heure. Mais il y a mon copain qui vient me chercher pour le week-end. C'est con que vous aviez l'air rigolo.
Vincent ! Vincent !
Fous le camp !
Il est pas rigolo, votre copain.
Si, 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 mais bon, c'est pas la même chose.
Vincent !
Vous croyez que les gens sont détendus, qu'ils ont l'impression de partir en vacances ?
Non, non, non. Oh, non, non.
Vincent !
C'est chacun pour soi un peu.
Vincent !
Personne ne se parle, hein, par contre.
Ah non, 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 c'est la loi de la jungle, un petit peu. Hein. Chacun fait sa vie, et plus vite arrivé, plus vite parti, et voilà.
Il fait quoi ? Les pompistes.
Non.
Routier.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Il y a des gens de toutes sortes. Il y a des anonymes, il y a des gens importants qui s'arrêtent et même des gens du showbiz.
Sans la poule.
C'est-à-dire qu'on s'attend à les trouver partout, sauf sur une aire d'autoroute.
Pardon.
Tout à fait, exactement. Oui, mais ils prennent l'autoroute comme tout le monde aussi.
Longtemps j'ai pas reniflé une femme, je te confirme, tu sens la poule de luxe.
Bref, il l'emmène sur une aire d'autoroute où il n'y a pas grand monde, un endroit discret.
Il y en a qui aiment bien cette ambiance.
Oui, bah, chacun son truc. Hein. Ouais. Non, les aires d'autoroute, moi, tous ces trucs-là, si je peux éviter, j'évite.
C'est con, vous aviez l'air rigolo. On va rester pas trop longtemps, sinon on va s'attacher.
Adeline Dieudonné, il y a quelques petits passages scabreux dans votre roman, notamment sur Sparking, à travers le personnage de Shelley. Est-ce que vous voyez dans ce parking, dans cette aire d'autoroute, un lieu sexuel aussi ?
Oui, il y a quelque chose d'érotique hein, dans les aires d'autoroute, évidemment.
C'est vrai, vous trouvez ?
Bah, je sais pas si on est sur la route et que tout à coup on a très très envie, il y a pas 150 000 endroits où on peut s'arrêter. Donc oui, j'imagine qu'il y a pas une aire d'autoroute qui n'a pas observé un couple en train de faire l'amour.
Ah bah alors, on va laisser la parole à Isabelle Ingol. Isabelle, parce que dans votre documentaire, il y a pas de sexe, il y a pas de rencontre amoureuse. Alors je me suis demandé si effectivement vous étiez tombé sur la seule aire d'autoroute où ça ne se produisait pas, ou si vous l'aviez exclu volontairement du film.
Alors je l'ai pas exclu. D'ailleurs, d'abord la solitude des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Je pense que le film le montre.
Tout à fait. Oui.
Et on voit aussi à un moment donné un homme qui regarde un film où c'est une jeune femme. Et voilà, il y a certainement une sexualité. Il se trouve que sur cette aire précisément, il y a eu une femme qui faisait un travail de prostituée et qui a pris sa retraite avant que je commence le tournage. Peut-être que ça aurait été un personnage. Et par ailleurs aussi, mais ça c'est pas une chose qu'on peut vraiment filmer, dans l'hôtel un peu de luxe qu'il y avait. Il y avait deux hôtels, un hôtel ex-Formule 1 et un hôtel plus Ibis, qui est plus de meilleur standing. Et on m'a dit qu'il y avait effectivement ce qu'on appelle des clients de l'après-midi. C'est-à-dire des gens qui viennent pour avoir une relation extra-conjugale. En dehors, dans un lieu où c'est un lieu de passage, où c'est beaucoup plus anonyme qu'à Péronne, où tout le monde se voit et tout le monde se connaît, comme dit Rodolphe, un des personnages.
Péronne, c'est le village qui est à proximité.
Exactement, 7 kilomètres.
De cette aire d'autoroute. Mathieu Flonneau, comment évoluent en fait les aires d'autoroute au fil des décennies? Est-ce que leur histoire, elle est liée à l'histoire notamment de la société des loisirs, à la façon dont on consomme aussi? Ou c'est encore un territoire un peu à part entière? Et il n'y a pas de rapport réellement avec notre société?
Non. Elles sont le reflet des évolutions du commerce. Elles sont le reflet aussi de la civilisation de l'automobilisme, hein, parce que une aire d'autoroute, c'est aussi pour faire le plein, c'est aussi pour vérifier les pneus, éventuellement vérifier sa voiture, pallier les problèmes d'accident. Il y a quand même aussi cela hein, en arrière-fond qu'il faut quand même garder en tête, c'est-à-dire que si on impose le repos toutes les deux heures dans les préventions de sécurité routière, c'est bien parce que la route est dangereuse potentiellement. Et donc les aires de repos sont cette dimension de préservation par rapport au flux. Toutes les facettes du commerce, il y a des générations d'équipements, bien évidemment, elles se sont perfectionnées. Il y a différents types d'air également. Il y a simplement des aires de repos, puis des aires de service. Le balisage des autoroutes tous les 20 km ou tous les 50 km. Bref, c'est un quadrillage du territoire assez uniforme pour servir la civilisation automobile, une forme d'autodrome généralisé. Mais ce sont des lieux fondamentalement humains. Parce que l'automobilisme est un humanisme et on y retrouve eh bien tous les commerces qui peuvent exister. Et celui que vous avez évoqué en est un. Mais il y a aussi en arrière-fond, et j'avais publié un livre qui s'appelait « Les cultures du volant » avec une station-service, celle de Hopper.
De Hopper,
Garth,
bien sûr, Edward Hopper, toile très connue, ouais, tout à fait.
Toute la solitude, toute la détresse presque du monde contemporain, mais aussi la dimension rassurante. Des petites routines que l'autoroute peut préserver sur ces lieux.
Alors c'est étonnant ce que vous dites, parce que je trouve que ça illustre parfaitement à la fois votre roman Adeline Dieudonné et votre documentaire Isabelle Ingol, le sentiment de solitude et puis ce sentiment aussi que c'est une vie à part entière avec ses travailleurs, avec une sorte de mini société en fait qui se constitue dans ce lieu-là. En ligne avec nous un auditeur. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Bonjour. J'ai cru comprendre, Marcel, que vous aviez vécu plusieurs journées sur une même aire d'autoroute. C'était à quelle occasion ?
Oui, alors moi c'était à l'occasion d'un événement mis en place par le ministère de la Culture, ça s'appelait Partir en livre, et disons, il y avait une incitation des automobilistes à freiner, à s'arrêter, et puis à découvrir qu'il y avait à leur disposition de la littérature, de la poésie, différents documents, et donc il y avait des aires de repos avec des transats, et puis les automobilistes qui arrivaient à fond la caisse souvent, hein, qui allaient directement à l'épicerie, s'arrêtaient, et puis là, il leur était proposé un peu de poésie en ce qui me concerne, je déclamais, et puis j'offrais de la part de Vinci Autoroute, hein, qui était partenaire, et bien mon livre à différentes personnes.
Marcel, vous déclamiez des vers, vous faisiez quoi exactement auprès de ces gens?
Je déclamais mes textes, hein. Je suis slameur, je suis auteur de mes mots en la parole, et je me produis souvent sur les petites scènes, dans les festivals, et dans les marchés, dans les fêtes en plein air, ça passe bien, et donc mes textes font 3 minutes et demie à peu près, et puis donc voilà, suivant le public, bien entendu, quand il y avait
une
majorité d'enfants, je lançais mes textes sur l'école, sur le premier jour d'école, ou sur l'institutrice extraordinaire. Quand c'était des seniors, eh bien oui, j'ai des textes sur les années 50, et l'habitat et le mode de vie. J'ai aussi des textes sur les belles rencontres et les quadras s'y retrouver vraiment.
Et ben alors voilà. Justement, Marcel, est-ce que vous avez fait de belles rencontres sur ces aires d'autoroute en déclamant vos textes?
Oui, eh bien oui, j'ai un texte sur une belle rencontre. Vous voulez que je vous en donne un aperçu?
Allez-y, on vous écoute.
Comme à chacune de nos retrouvailles, je venais de recevoir ton message. Je suis au métro, porte de Versailles, je t'attends. Sur un petit nuage, le délicieux contre-à-rebours s'était aussitôt enclenché, les stations, chacune à leur tour, se plaisant à nous rapprocher. Puis sur le quai, le brouhaha, la bousculade des grands soirs et le clignotement de tes doigts, là-bas, tout au bout du couloir. Le slalom à travers la foule pour se rejoindre à tire-d'aile, la fièvre, la chair de poule, tes yeux qui brillent comme des perles. Une petite bise pudique, enfin nos doigts entrelacés, ta voix comme une petite musique qui conjugue le verbe aimer.
Merci.
Je t'ai invité dans ma vie il y a quelques 6 mois maintenant, et alors, tour de magie, c'est depuis un enchantement. Tu as transformé mon décor, c'est peu dire. Ajoutez un plus, j'ai décroché la palme d'or, j'ai en main un Stradivarius. Nous sommes maintenant dans la rue, traversons le parc ombragé, ton appart est déjà en vue, j'égrène quelques banalités, puis la porte cochère, l'ascenseur, le premier moment d'intimité, nos yeux, nos joues, nos lèvres, nos cœurs retrouvent leur droit de cité.
Merci beaucoup Marcel, merci de nous avoir appelé sur France Inter pour témoigner. Merci infiniment, et puis continuez à déclamer vos slams sur les aires d'autoroute. Merci. Merci Marcel, à bientôt.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. Et vous, n'hésitez pas à nous écrire aussi un mail sur le site de France Inter ou nous laisser un message vocal via l'application France Inter. La poésie de Joy Crooks sur France Inter avec Phil Don't Fail Me Now.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Coincé au milieu de nulle part, près d'un rond-point au bord de la 34, Voynich, étrangement auréolé du titre de plus grand sanglier du monde. 8 mètres de haut, 13 de long et un poids de 50 tonnes, la bête est surtout devenue la fierté des Ardennais. Certains tentent même les comparaisons les plus folles.
C'est incroyable. On parlait du sanglier des Ardennes dans le temps, mais on a notre sanglier, notre tour Eiffel ardennaise. Et ça, c'est une fierté.
Vous venez d'entendre un reportage de France 3 sur l'inauguration de Voynich, le colosse des Ardennes. C'est une immense sculpture, je vais y arriver, sculpture d'Éric Slesiak, implantée en 2008, donc sur une aire de l'A34 et qui représente un sanglier qui est devenu le symbole de cette région. Mathieu Flonneau, j'ai choisi cet extrait parce que, au fond, est-ce que les aires d'autoroute ne sont pas aussi un lieu de culture? Il existe un art d'autoroute, au fond.
Oui, alors là, vous évoquez de surcroît une aire d'autoroute que je connais très bien, puisque je connais très bien Sedan, et la route qui y va par Rethel, au-delà de Reims, est tout à fait intéressante. Et ce sanglier, il précède quand même l'aire. C'est-à-dire que c'est, dans le Bessières ardennais, quelque chose d'essentiel. Et je vous rappelle la devise du sanglier, il n'y a pas de route, il l'a fait. Et donc, de fait, cet animal qui est robuste, qui incarne l'esprit ardennais également, eh bien, adosse cette infrastructure de mobilité au territoire. Et c'est un élément d'identité, un élément d'appartenance. Et bon, ça fonctionne dans les Ardennes, mais ça fonctionne aussi, et je sais que vous allez en parler, de en termes gastronomiques, avec des terroirs qui peuvent être valorisés au travers des aires d'autoroute et des spécificités locales.
Alors est-ce qu'en Belgique c'est pareil, Adeline de Donner, est-ce qu'il y a une identité culturelle par rapport aux aires d'autoroute que vous visitez, sur lesquelles vous vous arrêtez?
Ah, c'est une bonne question. Je l'ai pas remarqué autant qu'ici en France,
oui.
Ou que ce soit dans les stations-service ou dans les gares, on retrouve vraiment les produits locaux qui sont mis en valeur. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais pas m'avancer sur cette question parce que je suis pas sûre qu'on vende spécialement des saucissons ou des salaisons dans les autoroutes, les aires d'autoroute des Ardennes en Belgique.
Alors, on parlait d'art, mais c'est vrai que la gastronomie fait partie de la culture, notamment en France. Et évidemment, comment ne pas parler de gastronomie? Et comment ne pas parler de gastronomie quand on parle d'aires d'autoroute? Mais est-ce que, à part le chocolat chaud dont vous nous avez parlé en ce début d'émission, vous avez un souvenir culinaire d'une aire d'autoroute?
Bah, vous l'avez évoqué en début d'émission, mais c'est vrai qu'il y a le bon vieux triangle.
Le sandwich triangle.
Le bon vieux sandwich triangle qu'on a tous connu. Je réfléchis. Non, après, il y a les cafés un peu rigolos. C'est toujours des noms bizarres, des trucs un peu exotiques, quoi. Il y a le latte, le macchiato, le cappuccino. Enfin, on a l'impression qu'on a tout à coup un barista à notre disposition, alors qu'en fait, ils ont à peu près tous le même goût. C'est pas terrible.
Et dans le roman, il n'est pas question de café, mais il est question surtout d'une bière que Monica, votre personnage, à votre grand-mère, va s'acheter. Une bière de 33 centilitres.
Oui, là, alors,
et pas
là,
plus.
Là, j'ai fait une petite entorse par rapport à... Enfin, en tout cas, c'est un anachronisme parce qu'aujourd'hui, en Belgique, et je pense que c'est pareil en France, il n'y a plus du tout d'alcool dans les stations-service. Et là, c'est vrai qu'elle râle un peu, Monica, parce que, en gros, on lui dit bah non, on ne vend pas d'alcool parce qu'elle veut du gin. On dit bah non, on ne vend pas d'alcool. Elle dit bah, et vous avez de la bière, comme si la bière faisait exception. Donc, à mon avis, ça a dû être le cas pendant des années, mais aujourd'hui, j'ai été vérifiée, il y a vraiment. On vend du vin 0% ou des bières 0%, mais il y a vraiment plus une goutte d'alcool dans les...
Mais comme Keroesen est un roman, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Isabelle Ingold, est-ce que vous avez un souvenir culinaire d'une station-service?
Moi, c'est le petit déjeuner, en fait, parce que j'ai essentiellement tourné la nuit à l'intérieur, parce que, en fait, la journée, il y a tellement de gens que c'était difficile de pouvoir avoir un peu le personnel, de passer du temps avec ces femmes. Et donc, j'ai tourné dans l'équipe de nuit. Donc, après avoir nettoyé il faut nettoyer toutes les cuisines, ça se fait la nuit. Et puis, vers 2h du matin, il y a un repas. Et puis après, il y a les petits déjeuners qui arrivent. Et ça, c'est super. Il y a les quarts qui arrivent. Et tout d'un coup, on sert à la chaîne des petits chocolats et tout. Pour moi, c'est ce moment-là que je préfère.
Alors, une auditrice, Alex, nous a laissé un message vocal via l'application France Inter.
Alors, moi, je me suis toujours demandé... Si les personnes qui travaillaient sur les aires d'autoroute arrivaient sur leur lieu de travail en empruntant une entrée d'autoroute et quittaient leur lieu de travail en prenant une sortie d'autoroute, ou alors s'il y avait une petite porte dérobée qui leur permettait d'accéder directement à leur lieu de travail.
Mais merci Alex pour cette question qui me taraude depuis des années. Je suis sûre, Isabelle Ingold, que vous avez la réponse.
Bien sûr. Et donc il y a effectivement un parking du personnel qui est à l'extérieur de l'aire. Et il y a une petite porte qui n'est pas cachée, que tout le monde peut voir, qui donne sur les champs à côté. Et donc on passe et donc le personnel arrive avec un gilet et il traverse l'arrivée des poids lourds d'ailleurs. Donc c'est un endroit un peu dangereux. Mais donc tous les jours. Et ça m'est arrivé aussi de rencontrer donc une jeune fille qui travaillait sur l'air, qui avait commencé à 16 ans au petit hôtel comme femme de ménage. Et je l'ai rencontrée, elle avait 20 ans et elle n'avait jamais de sa vie pris l'autoroute.
Elle n'a jamais pris l'autoroute de sa vie alors qu'elle travaillait depuis des années sur cette aire-là.
Donc elle vient toujours, elle se gare sur le parking extérieur, elle traverse. C'est deux mondes, c'est un endroit qui est fermé, qui est clos. C'est une petite ville en fait au milieu de la campagne.
Vous avez filmé les de longues scènes de repas, on en a eu un aperçu tout à l'heure, notamment cette scène. Donc, on est à la fin d'un dîner, mais on ne sait pas exactement quelle heure il est. On va les retrouver, ces femmes, ensuite, au petit matin. Il est 5h30, elles viennent de finir un repas de Noël, on le devine à peine. Est-ce que vous n'avez pas perdu parfois la notion du temps dans cet endroit où la vie ne s'arrête jamais? Il y a un de vos personnages qui dit « c'est la vie H24 ».
Oui,
c'est un peu ce que disait Mathieu Flonneau d'ailleurs tout à l'heure. Hein, Mathieu, c'est ce que vous nous disiez, il y a de la vie tout le temps sur ces aires d'autoroute.
Et justement, en fait, c'est un côté tout à fait positif, je pense, pour notamment les jeunes, qui c'est des villes un peu mortes le week-end, il n'y a personne. Je me rappelle, une fois, j'avais rencontré un chauffeur espagnol, c'était à la période de Pâques, et à Pâques, il y a forcément des manifestations, je veux dire, à l'église, tout le monde est là, etc. Donc il était allé à pied, il a fait 2 kilomètres à pied pour aller voir le village à côté, il y avait absolument personne. Et donc quand on vit dans ce genre de milieu, l'aire d'autoroute, c'est fascinant en fait. Et il y a même des gens qui y vont le week-end pour prendre un café, pour acheter des cigarettes, pour même aller au pôle pour acheter le pain, parce qu'on peut pas le trouver, la boulangerie est fermée. Et c'est ce plaisir-là que la vie est là, la consommation est là tout de suite et tout le temps, et les rencontres sont possibles.
Oui, c'est ça l'évolution aussi, Mathieu Flonneau, c'est-à-dire que ces aires d'autoroute qui étaient des aires de repos ou de station-service pour la voiture au début de ces constructions, au début de cette infrastructure-là, tout d'un coup sont devenues comme des petites villes en fait à part entière où c'est pas forcément lié au voyage, c'est lié à dans quelle région on habite au fond.
Oui, alors là, pour tous les professionnels, les promoteurs de ce type de restauration ou de service, il y a des enjeux, mais encore une fois, il y a des générations d'équipements et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des dimensions ludiques, des dimensions de consommation, tout simplement. Il y a un petit côté hub d'aéroport, petit côté des taxes, enfin, l'idée que des produits parfois insolites peuvent s'y trouver. En effet, ce sont des capsules un peu hors du temps.
Adeline Dieudonné, il y a Monica dont on parlait tout à l'heure dans votre roman, qui était un personnage qui existait dans le premier roman, que je recommande grandement, La vraie vie. Je me suis posé la question, est-ce que cette station-service, elle pourrait pas être le nouveau décor d'un prochain récit et faire le pont, justement, entre deux romans?
Pourquoi
pas. Je suis obsédée par la station-service, pardon, je vous ramène toujours à ça, vous avez vu.
je vois. Non, c'est tout à fait possible. Après, là, c'est vrai que je l'ai pas mal exploité dans Kérosène déjà, mais oui, c'est vraiment un lieu fascinant. Et bon, en l'occurrence, vous évoquez le personnage de Monica. C'est vrai qu'il y a, de nouveau, hein, je l'ai pas vu comme ça en écrivant, mais en terminant le livre, je me suis dit, mais finalement, cette station-service, c'est une espèce de métaphore de la vie. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, sur les derniers mots du livre, c'est d'autres arriveront, tous repartiront. Ici, on ne fait que passer. Donc, il y a vraiment cette idée de passage. On est ultra remplaçable aussi, parce que voilà. Dès que quelqu'un part, quelqu'un d'autre arrive. Mais donc pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'on la retrouvera peut-être même en caméo.
Parce que ça, j'aime bien.
Les caméos, bah, c'est se dire peut-être que dans un futur roman, un personnage passera par la
station service en question.
Voilà, exactement. Oui. J'aime bien faire ce genre de petits clins d'œil. Enfin, en tout cas, pour moi, en tant que lectrice, c'est vraiment super.
Super agréable quand des auteurs font ça, donc c'est très possible, ou que des personnages reviennent dans d'autres romans. Oui.
Isabelle Ingold, vous avez tourné pendant plus d'un an sur cette aire d'autoroute. Est-ce qu'une suite est envisageable? Est-ce que parfois vous vous dites, tiens, je me retournerai bien sur ce lieu de tournage pour voir comment ça a évolué, si ça a évolué? Parce que c'est vrai que votre film date de 2016. En fait, on le regarde aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui pourrait se passer sur cette aire d'autoroute aujourd'hui.
Bah, avant de venir, j'ai appelé quand même le directeur de l'aire qui n'a pas changé. En fait, c'est les mêmes personnes. Les quatre femmes que j'avais suivies spécialement de l'équipe de nuit, donc il y en a une qui a pris sa retraite, une qui est en arrêt maladie et qui ne reprendra pas. Il ne reste plus qu'une seule personne. Et en fait, ça a quand même pas mal changé. Il y avait une passerelle qui a disparu, donc les aires sont isolées l'une de l'autre. Et il n'y a plus de service de nuit, donc il n'y a plus que le matin et l'après-midi, et donc le restaurant ferme le soir, la station-service reste ouverte, c'est tout. Donc ça a quand même pas mal changé, alors qu'à l'époque où j'étais, c'était la plus grande, enfin l'aire la plus fréquentée en Europe, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où maintenant c'est Montélimar.
Et ça vous donne envie d'y retourner pour voir si les rapports sociaux ont changé ou pas du tout? Ou il faut passer à autre chose?
J'avoue que, mais plus près de la réalisation du film, j'avais assez envie de faire... un documentaire radio sur les femmes, parce que c'est vrai que dans le film, elle était un peu plus mineure. J'étais beaucoup restée sur les parkings. Et finalement, ça s'est pas fait. Et puis le groupe avec lequel j'avais des liens a disparu. Donc aujourd'hui, non.
Merci infiniment à vous trois pour ce voyage autoroutier. Ce fut une drôle et belle rencontre. Mathieu Flonneau, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'automobile et l'histoire de nos routes. Dernier livre que vous avez co-dirigé, Métropole mobile, défi institutionnel et politique de la mobilité dans les métropoles françaises. C'est publié aux presses universitaires de Rennes. Isabelle Ingold, votre documentaire Des jours et des nuits sur l'air est disponible en DVD. Il est produit par Perspective. Et enfin, Adeline de Kérosène est publié chez l'Iconoclaste. Je recommande grandement la lecture de ce roman. Merci à vous trois. Pour prolonger ce voyage, je vous conseille de prendre la route avec deux adolescents. Une série road movie à voir sur Netflix intitulée The End of the Fucking World et adaptée du roman graphique de Charles Forsman. James, 17 ans, qui se décrit comme psychopathe, décide de fuir avec Alyssa, une ado rebelle en quête d'aventure. Un couple aux allures de Bonnie and Clyde, mais un peu trop jeune. Cette fiction britannique en 8 épisodes est un bijou d'humour noir porté par deux comédiens remarquables, Alex Lozer et Jessica Barden. Vous pourriez ressentir une once de honte à rire parfois face à certaines situations dramatiques. La semaine prochaine, nous continuons notre voyage avec l'équipe de L'été comme jamais, que je remercie chaleureusement. Juliette Medevielle à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie Aubert à la préparation. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Lundi, L'été comme jamais se muscle. Après l'Euro de football, après les JO et alors que les Jeux paralympiques débuteront la semaine prochaine, je vous propose d'aborder le sport autrement. Quand pratiques sportives et valeurs sociales se conjuguent mutuellement, grandir et s'intégrer grâce au sport, est-ce toujours possible? Eh bien, réponse lundi avec notamment l'historien Georges Vigarello. Dans quelques minutes, on philosophe avec Charles Pépin. Bonjour Charles, qui vous accompagne aujourd'hui?
Bonjour, aujourd'hui mon invité est le rappeur Oxmo Puccino, le Black Jacques Brel comme on l'appelle, et nous questionnerons ensemble le pouvoir des mots dans la transmission.